toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de France, avec la participation de Claire Bastide. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bien que dispersés, bien que ne nous voyant pas, bien qu'ignorant qui est à l'écoute et qui ne l'est pas, nous sommes ensemble réunis dans une même communion. Tous, nous avons répondu à un appel mystérieux qui vient du plus profond de nous-mêmes, l'appel de Dieu qui nous invite à une rencontre et nous réunit en ce jour. Soyez tous les bienvenus. À la façon de Laurent Drelincourt, pasteur et poète, en 1677, louons Dieu. Élève-toi, mon âme, et d'un vol glorieux, va dans le plus haut ciel contempler l'invisible, le monarque infini, plus grand que tous les cieux, la première beauté, l'être incompréhensible. C'est lui qui toujours est, sans jamais être vieux. C'est lui par qui tout est, à qui tout est possible, et qui, sans changer de place, est présent en tout lieu, et dont l'univers est l'image sensible. Éternel, trois fois bon, trois fois grand, trois fois saint, que le ciel même adore et que la terre craint. Fais que je t'aime autant que je te vois aimable, que t'ayant ici-bas contemplé par la foi, quelques jours au sortir de ce corps périssable, j'entre dans ton palais pour être tout en toi. Amen.
Prions. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit un jour « Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Pourtant, nous sommes incapables de suivre ses commandements. Nous les transgressons de mille et une façons au long des jours. Appelés à la liberté, nous ne cessons en pensée et en acte de vouloir contraindre celle de ce qui nous entoure, nature, bêtes et gens. La satisfaction de nos désirs est trop souvent notre seul moteur. Nous savons que par addition de tous nos égoïsmes, nous sommes responsables de la dégradation du monde et que la planète où nous vivons n'en peut plus. Nous la croyons nôtre alors que nous n'en sommes que les jardiniers et les gardiens. Nous en avons conscience et pourtant, nous sommes incapables de changement. Comme le papillon de nuit attiré par la flamme, nous tournons en une course folle et dansons une danse mortelle. Pour tout cela, pardonne-nous, Seigneur. Libère-nous de cette servitude. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, qu'ainsi tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que, par Jésus le Christ, Dieu vient ouvrir leurs yeux.
Avant d'ouvrir la Bible, prenons quelques instants pour prier. Notre Dieu et notre Père, au moment où nous allons ouvrir les pages du grand livre, viens par ton Esprit Saint nous éclairer, afin que les paroles que nous allons méditer deviennent pour nous paroles de vie. Amen.
Nous lirons dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 20 à 26. Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas. » Et le peuple se tint à distance, mais Moïse approcha de la nuit épaisse où Dieu était. Le Seigneur dit à Moïse, « Ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. Vous avez vu vous-même que c'est du haut des cieux que je vous ai parlé. Vous ne me traiterez pas comme un dieu en argent, ni comme un dieu en or. Vous ne vous en fabriquerez pas. Tu feras un autel de terre pour y sacrifier les holocaustes et les sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Mais si tu fais un autel de pierre, tu ne bâtiras pas en pierre de taille, car en y passant ton ciseau, tu les profanerais. Tu ne monteras pas par des marches à mon autel, pour que ta nudité n'y soit pas découverte. » Au premier livre des Thessaloniciens, et au chapitre 1, les versets 5 à 10. En effet, l'évangile que nous annonçons ne vous a pas été présenté comme un simple discours, mais il a montré surabondamment sa puissance par l'action de l'Esprit-Saint. C'est là, vous le savez, ce que nous avons fait parmi vous pour votre bien. Et vous, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole a retenti, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car chacun raconte, en parlant de nous, quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous arrache à la colère qui vient. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 34 à 40. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent. Et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège. « Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et puis, au psaume 18, nous lirons les versets 2 et 3. « Je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de ma victoire, ma citadelle. Loué soit-il. »
Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé. Comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. En vain, l'ouragan fait rage, et nulle clarté ne luit. Paisible, au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens, pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur.
Il y a déjà de nombreuses années, j'ai eu l'occasion, chez des amis, de faire la connaissance d'un grand spécialiste de l'art khmer. Angkor n'avait aucun secret pour lui. Au cours d'un exposé brillant, agrémenté de magnifiques diapositives, comme cela se faisait alors, il nous expliqua Comment avait évolué l'Armkhmer au cours du temps? Il s'intéressait plus particulièrement à son architecture. Il concluait en nous faisant remarquer que dans toutes les civilisations, et la Khmer n'y échappe pas, les concepts architecturaux se modifient selon un modèle assez reproductible. Selon lui, à partir d'un concept épuré, propre au génie du peuple créateur, une évolution architecturale se produit avec le temps jusqu'à atteindre un âge d'or où le concept de départ est parfaitement compris, maîtrisé et donne tout le fruit que l'on peut en attendre. Ensuite, cette architecture a tendance à se perdre dans un maniérisme l'essoufflant de plus en plus, prélude à son déclin, puis à sa mort. Il me semble qu'il disait que la raison profonde de cette évolution est la constatation qu'avec le temps se perd la connaissance des raisons qui en ont été la matrice. Plus proche de chez nous, la civilisation égyptienne reflète également cette réalité. Les bâtiments construits au temps des Ptolémées ne sont que le pâle reflet de ceux construits au moment de l'âge d'or de cette civilisation. Sans aller jusqu'à nous dire qu'ils ressemblent aux dérisoires constructions bâties par Numérobis, l'architecte de Cléopâtre imaginé par Goscinny, un guide nous faisait remarquer un jour que, lors de la période ptolémaïque, les raisons spirituelles profondes pour lesquelles ces temples avaient été construits avaient été en grande partie oubliées. Dès lors, la machine à construire tournait à vide, sans véritable raison d'être, sans assise solide. Cette perte de connaissance était devenue telle que même l'écriture hiéroglyphique commençait à être oubliée, comme le supposent de nombreux spécialistes, constatant de multiples erreurs, des fautes d'orthographe entre guillemets, sur nombre de hiéroglyphes dessinés sur les murs et les colonnes de ces temples. En un mot, il y avait une perte totale de sens à l'origine de ce déclin, prélude à la disparition de cette grande civilisation. Les descendants des grands architectes et décorateurs de sa période glorieuse avaient perdu la foi qui animait leurs prédécesseurs et ne faisaient que singer une architecture qu'ils ne comprenaient plus. Sans que j'en saisisse a priori la raison profonde, ce souvenir déjà lointain s'est imposé à moi à la lecture des textes de ce jour. J'ai essayé d'en comprendre la raison. C'est ce que je vais essayer d'aborder à présent. Dans le livre de l'Exode, concernant le culte, tout est expliqué, planifié. Un carcan de règles strictes est à respecter, à ne pas transgresser, au risque d'une profanation grave dont on ne peut que redouter les pires conséquences. À l'inverse, Jésus, lui, va à l'essentiel. Pas de rite auquel devoir se conformer, pas de liturgie particulière à connaître et à suivre scrupuleusement, pas de clergé nous dictant où est le bien, où est le mal, où est le vrai, où est le faux. Une seule chose, mais d'un grand poids. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et cet autre commandement, qui dans certaines traductions est présenté comme le semblable du premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À la réflexion, il m'a semblé que cette attitude est strictement l'inverse de celle que nous avons observée chez les Khmers et les Égyptiens. Chez eux, la dégénérescence de leur art est directement liée au fait qu'ils ont totalement oublié sa raison d'être. Dans les textes que nous avons lus, c'est l'inverse qui se produit. Avec Jésus, l'expression de la loi, des rites et des commandements se simplifie, tandis qu'émerge mieux encore leur sens profond. Jésus, qui connaissait parfaitement la loi et les rites de la religion juive de son temps, se libère du carcan dans lequel un conservatisme tatillon l'enfermait. Il revient à l'essentiel et par là même redonne un souffle nouveau à cette spiritualité. Cependant, à bien y regarder, le discours de Jésus est très exigeant. Suivre un rite, c'est souvent difficile et complexe. Il faut parfois beaucoup de temps pour apprendre à le maîtriser. Mais finalement, c'est extrêmement rassurant et pour certains, apaisant. Le fidèle C'est ce qu'il a à faire pour rester dans les clous, dirions-nous familièrement aujourd'hui, et ainsi satisfaire les attentes de la divinité. Rien de tel dans le digeste de la loi présenté par Jésus. C'est un commandement qui engage totalement que nous sommes appelés à suivre. Une obéissance absolue qui révolutionne nos vies. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas évident. Rien de plus difficile, à mon avis. Comme le disait il y a quelques jours à peine une pasteur de Nîmes qui avait été son élève, André Dumas, disait à propos de ce commandement « Tu nous commandes d'aimer, mais nous ne savons pas aimer sur commande. » Simple rappel à l'humilité, nous qui sommes si prompts à juger les autres, mais si peu capables d'obéir à un tel commandement. Ce commandement, nous savons bien que nous sommes incapables de le vivre totalement, et Jésus-Christ le savait sans doute lui-même. Pourtant, il nous montre la route à suivre, le chemin à emprunter, et ce n'est pas facile. Obsédé par la crainte de l'enfer du fait de son péché, Luther découvre, par une lecture attentive et une méditation approfondie des évangiles et de l'ensemble du Deuxième Testament, qu'étant de nature irrémédiablement pécheresse, seule la grâce de Dieu obtenue par le moyen de la foi est de nature à sauver l'homme. Il aurait même dit un jour « Pêche courageusement, mais crois, et réjouis-toi en Christ d'autant plus courageusement. » Phrase ambiguë, à l'origine de bien des erreurs d'interprétation. Le théologien Dietrich Bonhoeffer a beaucoup travaillé cette question des rapports entre la grâce et la loi. Il distinguait la grâce à bon marché de la grâce qui coûte. Selon lui, la grâce à bon marché, c'est celle qui, au prétexte que la foi seule sauve, prétend nous libérer de la loi et finit par être plus une justification du péché que du pécheur. Il écrivait que seul celui qui, obéissant à Jésus, renonce à tout ce qu'il a, a le droit de dire qu'il est justifié par la foi seule. Il reconnaît la grâce jusque dans l'appel à l'obéissance, et la grâce pour lui est cet appel. Mais quiconque veut, par cette grâce, se dispenser d'obéir, se fait illusion. Fin de citation. Ainsi apparaît clairement le fait que la notion de grâce ne nous exonère pas de l'obéissance à la loi. Il est vrai que le discours de Jésus l'a largement dépoussiéré et qu'il l'a expurgé de bien des aspects devenus obsolètes. À ce titre, la guérison du paralytique, un jour de sabbat, et l'attitude de Jésus face à la femme adultère sont hautement significatives de cette évolution. Cependant, pour ce qui est de l'essentiel, de sa raison d'être, de ce qu'elle a d'intemporel, la loi demeure. Elle doit être suivie, et la grâce, au bénéfice de laquelle nous sommes, ne nous dispense pas de le faire. Comme le disait également Bonhoeffer, la grâce qui coûte est la seule grâce pure qui pardonne réellement les péchés et qui libère réellement le pécheur. Comment pourrait-il en être autrement, en effet, lorsque l'on comprend que seule l'application de la loi telle que le Christ nous a demandé de le faire est de nature à réconcilier les hommes et à sauver le monde. Voilà des paroles que nous trouvons sans doute dérangeantes à entendre, mais vouloir suivre Jésus, n'est-ce pas justement accepter d'être dérangé dans nos zones de confort les plus précieuses et les plus sécurisantes à nos yeux? C'est sans doute à cela que nous invitent les paroles révolutionnaires et bouleversantes pour nos vies que nous venons de lire. Aime ton prochain comme toi-même. Amen.
Thank you.
avec les premiers témoins de Jésus-Christ, confessons la foi chrétienne en proclamant. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons que c'est lui qui est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Nous prions maintenant pour les autres. Les uns pour les autres. Seigneur, qui nous commande d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les mourants, les prisonniers, les isolés, les victimes des guerres si nombreuses en ces jours d'angoisse et de doute, de l'injustice et du désordre. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, mais également pour ceux que nous ne parvenons pas à aimer, afin que tu nous apprennes à découvrir en eux des frères que tu nous as choisis pour compagnons de route sur la terre. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance, son amour. Libère-la de ses compromissions. Donne-lui la volonté de chanter ta louange, de combattre pour la justice. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Allez annoncer et manifester à tous les hommes l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun homme n'est perdu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-eglise-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de France, avec la participation de Claire Bastide. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.